11h passées de 4 minutes sur Grand Sud FM, merci d'être avec nous. Et nous sommes tout de suite en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. On va retrouver Benjamin avec une première invitée, Emma Bellotti.
Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous les auditeurs de Grand Sud FM. Effectivement, Grand Sud FM est en direct jusqu'à midi pour cette 10e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne qui se déroule aujourd'hui, mais également demain sur le cours Mirabeau de Narbonne avec une entrée de gratuite, on tient à le préciser, donc venez nombreux. Et pour commencer bien ce direct, je me trouve avec Emma Bellotti qui est vice-présidente du Grand Narbonne, déléguée à la vie politique et à l'action culturelle. Bonjour Emma Bellotti.
Bonjour.
Alors, pour débuter cette interview, est-ce que vous pouvez nous présenter cette 10e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne ?
Oui, tout à fait. Donc, je dirais que cette décennie culturelle est donc, c'est aujourd'hui donc le top départ, et elle va donc nous réserver de belles surprises, puisque comme chaque année, les personnes pourront déambuler sur le cours Mirabeau à la rencontre donc d'invités prestigieux pour des rencontres passionnantes, mais pas que, puisque on pourra également assister à des ateliers qui sont dédiés aux jeunes et aux moins jeunes. On pourra, par exemple, au hall aujourd'hui et demain, assister à des rencontres gourmandes et évoquer, par exemple, avec André Mahalouf, la cuisine libanaise. Aujourd'hui, là, actuellement, là, dans deux minutes, ça a dû commencer, il y a Loana Belmondo avec son fils Alexandro, qui, elle, nous fait voyager jusqu'à l'Italie avec des recettes et un livre dédié aux recettes italiennes.
Au final, on peut résumer que c'est un programme qui est réservé aux plus petits, mais aussi ça va jusqu'aux plus grands.
Exactement, on a essayé donc d'essayer de toucher tout le public, les plus jeunes et les moins jeunes. Comme je l'ai indiqué, il y a des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les plus âgés, sans nous.
Alors, depuis sa création, le salon s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres. Au final, quelle est l'ambition année après année pour ce rendez-vous ?
Alors, pour ce rendez-vous, le Salon du Livre, comme vous le rappelez, c'est le Salon du Livre du Grand Narbonne. Et il est important pour nous, et chaque année nous nous efforçons à faire cela, c'est de multiplier les partenariats avec les acteurs locaux très divers. Comme bon, cette année, cela fait deux années, mais là encore cette année, on a renforcé donc le partenariat, par exemple, avec les Halles, puisqu'il y a deux rencontres gourmandes. On a renforcé le partenariat avec la Maison des Jeunes, puisque hier et avant-hier, il y avait deux concerts. On a renforcé le partenariat avec le théâtre. Et donc, par exemple, ce soir, il y a le spectacle avec Thomas Ferzin, avec Narbovia, puisqu'il y a aujourd'hui donc un super spectacle à 18h, l'Odyssée, et demain, une lecture donc musicale. Donc, je vous invite à vous rendre donc au Narbovia, au théâtre. Bon, la Maison des Jeunes, c'était trop tard, c'était hier, mais c'était deux concerts vraiment très fabuleux et très intéressants avec un public nombreux et intéressés. Et je constate cela chaque année, un public de plus en plus nombreux, de plus en plus enthousiaste à l'idée de venir participer à toutes les activités que propose donc ce Salon du Livre.
Et du coup, c'est important pour le Grand Narbonne d'ouvrir justement ce Salon du Livre également à la ville de Narbonne, en fait, au final, vu qu'il y a plusieurs lieux qui sont touchés par ce salon.
Il faut reconnaître que la ville de Narbonne est quand même la ville centre du Grand Narbonne et qu'elle permet, par des outils présents sur son territoire, de permettre ces échanges. Donc, effectivement, nous avons donc la médiathèque, nous avons le théâtre, nous avons Narbovia, c'est très intéressant, les Halles, sans parler des Halles, qui permettent donc ces échanges très fructueux.
Alors, je le disais en tout début de l'interview, l'entrée, elle est gratuite. Est-ce que l'ambition d'un tel salon, c'est de pouvoir rendre disponible la culture pour tous, au final ?
Oui, tout à fait, avec ces entrées gratuites, comme hier soir à la Maison des Jeunes et avant-hier, comme ce soir, comme aujourd'hui donc et demain au salon donc sur le cours Mirabeau, l'entrée gratuite, parce qu'il faut savoir que le Grand Narbonne est très attaché à la culture pour tous, en tout temps, en tout lieu, et de façon répétée tout le long donc de l'année.
Alors, est-ce que vous avez coché des auteurs à titre personnel, Emma Bellotti, sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne ?
Il faut dire que par ma profession, j'avoue que cette année, je suis très satisfaite donc des invités. Je viens donc de quitter Dali Farah, qui nous a parler de façon très poignante d'un livre, Quand le fait divers rencontre l'intime, donc retrouver Fiona. Je vais faire un petit tour quand même sur la dégustation Comantéoual avec Luana et Alexandro Belmondo. Là, c'est par rapport à mes origines. Et après, je vais essayer de retrouver Marie-Laure Brunet-Dupin, qui est à la tête de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie, et Valérie Perronnet, romancière, pour assister à la rencontre donc de ces deux personnes qui va nous parler de lorsqu'une profileuse rencontre une romancière. Après, il y a des tas donc de d'auteurs intéressants. Je parlerai aussi de des confidences tunisiennes, une rencontre avec Marie Ligné. J'en ai eu un petit aperçu puisque elle a eu donc la gentillesse jeudi soir de nous faire part de ses confidences dans le cadre de la Maison des Jeunes. C'était un moment très précieux et très savoureux.
Et en tout cas, je vous souhaite bonne visite dans ce salon du livre du Grand Narbonne et Babel Loti.
Je vous remercie et je souhaite donc que le public vienne nombreux à la rencontre donc de ces auteurs très passionnants.
Et puis dans le cadre du salon du livre du Grand Narbonne, sachez que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez découvrir les livres des auteurs intitulés sur le salon qui se sont cachés dans 33 vitrines des commerçants du comité de l'association En Ville. Pour cela, il vous faut remplir le bulletin de participation et le déposer aujourd'hui avant 16h dans l'urne du côté de l'office de tourisme de la Côte du Midi avec des bons d'achat qui vont de 15 à 20 euros. Donc n'hésitez pas à jouer à ce jeu de piste. Un petit mot peut-être, Emmabelle aussi.
Je voudrais juste préciser que les récompenses, enfin les gagnants, seront donc désignés demain au hall à 11h.
Eh bien, merci pour cette précision. En parlant des halles de Narbonne, on va retrouver Marilyn dans quelques instants, qui sera notamment avec Luana et Alessandro Belmondo.
Merci Benjamin, on se retrouve donc dans les prochaines minutes, toujours en direct sur Grand Sud FM. Tout de suite, c'est l'heure des annonces immobilières des agences du soleil. Grand Sud FM. 11h21 sur Grand Sud FM. Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. Et là, c'est tout de suite au cœur des Halles qu'on retrouve Marilyn avec la famille Belmondo.
Et tout à fait, Jean-Michel, on est au cœur des Halles de Narbonne avec Alessandro et Luana Belmondo qui vont faire un hommage à la cuisine italienne au cœur des Halles de Narbonne. Ils ont sorti un livre qui s'appelle La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo. Et on va commencer tout de suite avec Alessandro, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Donc Alessandro, vous êtes, vous et votre maman, des épicuriens tous les deux, épicurieux comme vous le disiez tout à l'heure. La cuisine, c'est vraiment une histoire de famille. Expliquez-nous un petit peu votre périple qui a donné lieu ensuite à ce livre.
Alors moi d'abord, c'est qu'à la maison, en fait, maman avait l'habitude de beaucoup cuisiner. Et avec papy, tous les dimanches, on mangeait beaucoup. On avait les repas de famille le dimanche. Et en fait, ce livre est venu d'un documentaire qu'on a fait avec maman, qu'on est parti en Italie. Et c'est que moi, j'avais besoin de connaître mes origines italiennes. Donc, je connais celle du côté de maman, mais je connaissais pas celle du côté de mon grand-père. Et donc, on est parti en Sicile, où qui est, comme je dis moi, le berceau de ma famille. Et là, de là, est parti un périple où on a fait la Sicile, la Toscane, Rome et Venise.
Vous avez mis combien de temps pour faire ce périple, Alessandro ?
Alors, c'était très intense, 14 jours, non-stop.
Ah oui, 14 jours. Alessandro, vous êtes chef aussi au restaurant Caillebotte à Paris. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que ce voyage a complètement influencé votre cuisine ?
Alors en fait, moi, ce voyage, il m'a apporté en fait quelque chose qui est important, c'est que dans ma cuisine, j'adore mélanger ma culture française et italienne. Et en fait, j'ai connu des nouveaux produits en Sicile surtout, dont les figues de Barbarie, que je connaissais pas. Et si on mélange la figue et le prosecco, on a un goût de pomme, donc c'est assez drôle pour mes desserts. Donc je suis en train d'essayer un dessert comme ça.
Donc ça vous a influencé. Quels souvenirs, vous me parlez de ces repas en famille, quels souvenirs vous gardez-vous de vos étés en famille en Italie, Alessandro ?
Les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est qu'en fait mon grand-père avait l'habitude de louer des villas et réunissait toute la famille, donc celle de Paris. J'ai de la famille aux États-Unis, on se retrouvait tous, surtout en Toscane. Donc il adorait la Toscane et on mangeait beaucoup.
Alors, votre grand-père, hein, Jean-Paul Belmondo, aimait beaucoup la cuisine italienne, si je comprends bien.
Ah, il adore ça. On allait très souvent au restaurant italien. Pour la petite histoire, les penne arrabbiata qui sont au piment, pour la première fois, il me les a fait goûter. J'étais jeune et j'avais peut-être 6 ans. Et ça l'a fait rire de me faire goûter des penne qui piquent. Donc, depuis, c'est devenu moi aussi mes pâtes préférées.
Alors, vous et votre maman, Alessandro, vous aimez partir à la rencontre des producteurs et des mets locaux. Je sais que vous êtes arrivé hier soir, vous avez peut-être pas encore eu le temps de découvrir quelque chose de spécifique à Narbonne.
Alors, j'ai pas encore. Alors, la cuisine de Narbonne, je la connais pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller manger dans un restaurant typiquement de Narbonne pour connaître cette cuisine. Moi, c'est très important, en fait, quand j'arrive dans une ville, un pays, c'est que je vais d'abord au marché voir les produits, les producteurs. Et comme je dis très souvent dans mon métier, moi je suis chef et le nerf de la guerre, c'est vraiment les producteurs. C'est eux qui commandent d'abord. Sans bons produits, sans bons producteurs, sans gens passionnés comme les producteurs, nous on fait pas forcément de la bonne cuisine.
Et là, du coup, vous êtes au cœur des Halles de Narbonne, un lieu très, très symbolique à Narbonne, un lieu super. Vous avez eu le temps de faire le tour, Alessandro ?
Pas encore. Quand j'aurai terminé les pâtes pour tout le monde et faire goûter cette bonne cuisine italienne, je vais faire mon tour dans les Halles et aller voir les producteurs.
Alors justement, Alessandro, vous proposez en ce moment, et jusqu'à 12h30, hein, ça je le dis pour les auditeurs de Grand Sud FM qui nous écoutent, aujourd'hui aux Halles de Narbonne, je vois que c'est des pâtes brocoli. Expliquez-nous un petit peu la recette. Hein.
Alors c'est des pâtes au brocoli que faisait ma maman quand j'étais plus jeune pour nous faire manger des brocolis justement. En fait, ce sont des brocolis qu'on fait sauter avec de l'ail, normalement du piment. Si c'est pour les enfants, de l'ail, ça suffit, pas beaucoup, c'est au goût. On les mouille avec du bouillon de poule. Vous pouvez aussi le faire avec du bouillon de légumes pour une version végétarienne. On mixe un petit peu de brocoli aussi pour créer une liaison avec de la purée, et tout simplement. Et après, une petite râpée de pecorino qui est mon fromage préféré italien.
Bon, là, je vois que les gens vous attendent, hein, ont hâte de déguster tout ça. Ça prend combien de temps, Alessandro ?
C'est assez rapide, en fait. Allez, 15-20 minutes, c'est prêt. Si vous prenez des pâtes fraîches, encore moins de temps encore.
Bon, bah, faut venir déguster, voilà. Tout simplement. Et Alessandro, vous êtes là encore cet après-midi, encore demain. Alors, pas au cœur des Halles de Narbonne, mais sur le stand 17.
Alors, sur le stand 17, on sera avec maman, avec notre livre, et passez nous voir. Ça sera un grand plaisir de discuter avec vous.
Merci beaucoup, Alessandro, d'avoir pris le temps. À bientôt.
Et au revoir, tout le monde.
Alors, on va pas s'arrêter là parce que j'ai sa maman qui est dans le coin. Donc, hop, on va aller voir Louana. Louana, est-ce que vous avez deux petites minutes pour nous parler un petit peu de cette cuisine italienne ? Louana, bonjour.
Bonjour, ça va ?
Oui, et vous ? Parce que Alessandro me parle beaucoup de vous, vous l'inspirez beaucoup pour la cuisine. Il m'a parlé des pâtes que vous lui faisiez quand il était petit. Vous aimez toute cette cuisine italienne ?
Ben, je suis italienne, donc je l'aime beaucoup. C'est une cuisine familiale, hein, parce que voilà, c'est une cuisine simple, ce sont des recettes. Moi, je ne suis pas chef, je suis une maman, comme il dit souvent Alessandro. Une cuisinière, j'aime me définir une cuisinière au quotidien.
Et ça, vous aimez le partage comme ça au cœur des Halles de Narbonne, Louana ?
Bah, écoutez, moi, j'étais jamais venue à Narbonne. J'adore d'abord les Halles partout, parce que c'est je me trouve dans mon élément. Et j'ai un très bon accueil, tout le monde est tellement délicieux et sympa que c'est génial de pouvoir, aujourd'hui, mon fils est en train de réaliser une des pâtes qui a marqué un peu son enfance et on est content de la partager avec les gens de Narbonne.
Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, ça a marqué son enfance. Vous avez pu rencontrer Julien qui est au Halles de Narbonne et qui fait toute cette partie italienne et notamment les pâtes.
Oui, absolument, c'est grâce à Julien justement qu'on peut réaliser tout ça parce que il nous a ramené des excellents produits. Et donc, c'est bien parce que l'Italie est aussi à Narbonne avec Julien, c'est bien.
Oui, et moi, je voudrais juste parler un petit peu de votre livre, La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo. Votre fils me disait tout à l'heure, Alessandro, c'était 14 jours intensifs.
Ben oui, parce qu'en fait, j'ai voulu tirer ce livre d'un documentaire que j'ai écrit pour Canal Plus, et je me suis dit, ça serait bien qu'on en tire un livre. Mais le documentaire, oui, on a fait 14 jours, on les a fait entre la Sicile, Rome, la Toscane, Venise. Ça a été très intense, mais on en garde que des bons souvenirs, ça a été des moments exceptionnels entre nous deux, même si on faisait de la télé.
Ben écoutez, merci beaucoup Louana. On invite les auditeurs de Grand Sud FM à vous retrouver cet après-midi et demain matin sur le stand 17 du Salon du Livre du Grand Narbonne. Et puis on sent que vous avez envie de partager, donc les auditeurs vont pouvoir partager beaucoup de belles choses avec vous, j'imagine.
Oui, on vous attend. Si vous avez envie de venir, on est là avec plaisir, même pour échanger tout simplement. Merci beaucoup.
Merci Louana. Voilà, donc venez au cœur des Halles, hein, jusqu'à 12h30, vous allez pouvoir déguster ces pâtes qui sont préparées ici, sur place, des pâtes au brocoli avec Alessandro et Louana Belmondo. Et puis n'oubliez pas d'aller les voir sur le stand numéro 17, la Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo. Voilà, je vais aller rejoindre Benjamin sur le stand numéro 14, ou Thomas. Qui est avec une autrice. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Marilyn. Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. 11h30. Voici Francis Cabrel. Francis Cabrel sur Grand Sud FM, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. 11h34, merci d'être avec nous, toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. On retrouve tout de suite Thomas avec une nouvelle invitée.
Et oui Jean-Michel, je suis au niveau du stand de 14, au stand de Cultura, du stand du Salon du Livre du Grand Narbonne. Et cette fois-ci, je suis avec Daniel Thierry, auteur de Polar, qui vient nous présenter du coup un de ses derniers livres, La Bête des Vosges. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous allez bien Daniel? Ça se passe bien ce début de Salon du Livre?
Bah parfait, il fait beau, il y a du monde, c'est génial.
Alors Daniel, je rappelle pour les auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, désolé, vous avez eu une première vie dans la police. À quel moment vous avez eu envie de partager vos expériences ou de vous inspirer de vos expériences pour créer des romans?
Alors ça commence à peu près dans les années 90, au moment où je suis nommée commissaire divisionnaire. Je suis la première femme en France à accéder à ce grade. Et donc il y a une grande campagne médiatique et là il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Vous devriez écrire vos histoires ». Bon, sur le coup, je dis « Bah oui, vous êtes gentil, mais j'ai pas trop le temps ». Je dirige un gros service à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Ça commence par une série télé, d'ailleurs, hein. Moi, mon aventure avec l'écriture, ça commence avec Quai numéro 1. Et puis ensuite, bah, j'enchaîne parce que ce qui m'intéressait, justement, c'était d'écrire. Alors, d'écrire, pas forcément ma vie, mon œuvre, pour faire comme tout le monde, quoi, hein. On a tous plein d'histoires à raconter quand on a passé autant d'années dans la boîte, mais surtout pour me faire plaisir à moi, parce que c'est ce que j'aimais, écrire.
Oui, vous étiez lectrice avant du coup d'écrire, donc vous étiez lectrice de Polar. Vous l'avez dit, vous avez été la première femme commissaire divisionnaire. Est-ce que justement ça a été un problème au début de votre carrière d'écrivaine de raconter vos histoires? On vous a peut-être reproché ça?
Alors, j'ai pas raconté mes histoires, je l'ai fait, mais de façon détournée, en quelque sorte. J'ai fait un livre autobiographique, bon, dans lequel, évidemment, j'ai pas pu tout raconter toute ma vie et tout ce que j'avais vécu, ce qui est d'ailleurs légitime, il n'y a aucune raison pour qu'on fasse ça. Mais le livre, le roman, à travers le roman, ça m'a permis, parce que là, il y a une plus grande liberté, bien entendu, à condition de respecter certaines règles, de pas raconter, justement, les affaires criminelles, de pas citer les noms, de ne pas dire que nos dirigeants sont des abrutis, parce que ça se fait pas. Et puis, il n'y a aucune raison de faire ça, de toute manière. Donc, ceci étant, c'est pas toujours très simple de se découvrir, de se mettre un petit peu dans le champ de tir en publiant des romans, même des romans, parce qu'évidemment, ça va toujours donner lieu à des critiques, mais bon, après, sinon, on fait jamais rien, hein, si vous voulez. Donc, moi, je l'ai fait parce que je savais que je pouvais le faire. J'ai respecté les règles de base. Et voilà.
Alors, vous l'avez dit, justement, vous avez été femme commissaire divisionnaire. Ça a été aussi un petit peu dur dans cette époque d'être dans la police. Vous avez écrit des livres où souvent, ce sont des héroïnes qui sont mises en avant. Alors, malgré le fait que vous avez écrit un livre, enfin, que vous avez écrit en collaboration un livre autobiographique, est-ce que ça n'a pas été aussi une manière pour vous d'expliquer votre situation qui était peut-être certainement complexe à ce moment-là dans un monde de police qui était réservé aux hommes, de créer des femmes héroïnes pour les mettre en avant dans ce milieu-là?
Oui, alors, je dirais des femmes qui sont pas des héroïnes, parce que les héros chez nous, c'est des gens morts. Donc, c'est un personnage principal qui est souvent, effectivement, dans ma série d'Edwige Marion, c'est une femme. Bon, c'est plus facile pour moi de mettre en scène une femme qu'un homme. Je me mets plus facilement dans la peau d'une femme. Et bien évidemment, ça m'a permis aussi de faire passer un certain nombre de choses à travers elle, sur l'expérience, comment une femme se débrouille dans un monde d'hommes, parce que quand je suis arrivée quand même dans la police, il n'y avait pas de femmes. Je fais partie des premières femmes officiers de police, de fin des années 60, donc 69. Et évidemment que c'était pas simple, mais en même temps, c'était pas non plus insurmontable. La preuve, c'est que j'ai quand même réussi à le faire, à surmonter, et que ça a ouvert la voie à un certain nombre d'autres femmes. Alors, tout le monde n'a pas le même parcours, bien sûr. Je sais que pour certaines, ça a pu être plus difficile. Après, c'est souvent une question aussi de personne, de caractère, de tempérament. Voilà. Bon, moi, je me laissais pas marcher sur les pieds. Et j'ai tout de suite joué le jeu aussi dans la boîte. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je devais faire pour mériter ma place et mes galons.
De toute façon, voilà, vous l'avez dit, vous avez fait derrière une très très belle carrière dans la police. Alors, on va revenir aussi sur un livre que vous mettez en avant pour ce salon du livre du Grand Narbonne. C'est l'une de vos dernières créations. C'est La Bête des Vosges. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire, parce que ça pourra peut-être rappeler certaines histoires légendaires qui sont pas très très loin d'ici.
Alors, on parle beaucoup de la bête du Gévaudan, surtout dans la région, bien sûr. C'est la plus connue, c'est celle dont on parle toujours. Bon, comme il y a à peu près 200 histoires de légendes de bêtes dévorantes en France qu'on a répertoriées. Et bon, évidemment, ces bêtes, on sait très bien que ce sont des légendes, justement. Personne ne les a jamais vues, personne ne les a jamais vraiment décrites précisément, pour la bonne raison que on a compris qu'elles n'existent pas. Nous, le challenge avec Marc Wielinski, qui est donc mon co-auteur pour ce livre, c'était de montrer comment on pouvait aujourd'hui, à la période actuelle, faire tenir une histoire comme celle-là. C'est-à-dire qu'on a des moyens scientifiques, on fait intervenir une primatologue qui va bien sûr, elle, dire très vite, moi s'il y a une bête quelque part, je vais la trouver. Voilà. Et comment on fait avec les drones, avec l'ADN, avec les téléphones portables, avec les caméras, avec tout ce qui... pour faire tenir une légende comme celle-ci. Voilà, c'était le défi que nous avons relevé, je pense, je dirais pas brio parce que c'est prétentieux, mais en tout cas, c'est un livre qui marche bien, qui est intéressant et qui nous emmène aussi sur des chemins un peu dévoyés, à savoir des expériences qui ont pu être faites à certaines époques, sur l'hybridation, des hybridations homme-animal. Il y a des gens qui s'y sont essayés à Madagascar, par exemple, on a tenté de faire ça pour voir ce que ça pouvait donner. Voilà. Enfin, l'homme est un apprenti sorcier, je ne vous l'apprends pas, et c'est de ça qu'on parle aussi.
Donc voilà, donc ça c'est le livre que vous pourrez retrouver notamment avec pas mal d'autres livres de Daniel Thierry sur le stand 14 ici au salon du livre du Grand Narbonne. Et en plus du coup d'exposer vos livres, vous faites une conférence cet après-midi à partir de 14h15 sur le polar quand la réalité inspire la fiction. Donc vous allez peut-être nous donner aussi les clés d'un beau polar.
Non, pas de recette, peut-être quelques petites pistes, mais pas de recette, parce que s'il y en avait, évidemment tout le monde les appliquerait et tout le monde serait à la tête de best-seller, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, un bon polar, c'est un polar qu'on a envie de lire, et c'est toujours de toute façon le lecteur qui va décider si c'est un bon polar ou si c'est pas un bon polar. C'est comme ça que ça marche.
Donc là, on le rappelle, pour cette conférence, on vous retrouvera à partir de 14h15 jusqu'à 15h pour le polar quand la réalité inspire la fiction. Merci Daniel Thierry d'avoir répondu à mes questions ce matin sur Grand Sud FM.
Merci à vous, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h15.
Voilà, le rendez-vous est pris du coup pour les auditeurs auditrices de Grand Sud FM. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas, si vous voulez passer voir Daniel Thierry, elle est très sympathique pour présenter ses bouquins. On pourra aller voir justement ses livres, avec notamment La Bête des Vosges, qui est le livre mis en avant pour ce salon du livre du Grand Narbonne. Et Jean-Michel, je vais te rendre la main parce qu'on va pouvoir retrouver Benjamin dans quelques minutes, toujours sur le stand 14.
Merci beaucoup Thomas, il est 11h42, c'est l'heure de faire une courte pause et on retrouve toujours le salon du livre dans les prochaines minutes. Grand Sud FM. 11h50 sur Grand Sud FM et nous retournons sur le cours Mirabeau à Narbonne pour le salon du livre du Grand Narbonne. On retrouve Benjamin avec un nouvel invité.
Oui, tout à fait Jean-Michel, nous allons terminer cette matinée avec le dernier invité qui est Romain Slocombe, que vous pouvez retrouver sur le stand 14 de Cultura. Aujourd'hui, il va nous parler du livre Une salle française. Bonjour Romain Slocombe.
Bonjour.
Alors Romain Slocombe, vous êtes spécialiste des romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Vous avez choisi de faire parler les archives pour ce nouveau roman Une salle française qui est inspiré d'une histoire vraie. Comment êtes-vous tombé dessus ?
Un ami historien m'a envoyé, il savait que je travaillais sur des agents nazis qui avaient été envoyés en France à la fin de la guerre pour des opérations de sabotage. Il m'a envoyé tout un tas de dossiers des archives nationales. Et là-dedans, j'ai remarqué un truc que lui avait sans doute pas vu. Il y avait une femme. Visiblement, la DST pensait que tous ces dossiers concernaient une seule et même femme. J'ai vu en fait que le prénom était le même, mais les dates de naissance, l'orthographe du nom, ça variait dans certains éléments du dossier. Et en fait, deux femmes distinctes, et la coïncidence était énorme, au point que les services de contre-espionnage ont, eux, pensé que c'était la même femme. Et l'une d'elles avait un parcours qui vraiment m'intéressait beaucoup, parce que c'était un parcours en demi-teinte. C'était pas comme l'autre, une vraie nazie, une fanatique, et c'était au contraire une femme qui avait plutôt eu pas de chance parce que son mari était prisonnier, elle est partie travailler en Allemagne, donc elle n'est pas du tout intéressée par l'idéologie nazie, c'est juste les circonstances de la vie qui font qu'elle est partie travailler là-bas, à Stuttgart, et là, elle va tomber amoureuse d'un jeune Français qui fait partie d'un groupe de Français qui ont des occupations assez louches parce qu'ils sont étudiants en espionnage. Il y a une école, en fait, organisée par les nazis à Stuttgart, pour envoyer ces jeunes Français avec des postes radio dans la France pétainiste, dans la France de Vichy, pour espionner, il y avait encore la zone libre, pour espionner l'armée d'armistice, enfin ce qui reste de l'armée française, et descendre même jusqu'en Algérie après. Et elle va tomber amoureuse de ce type, et lui, il va l'emmener, ce qui n'est pas du tout prévu dans sa mission, il va l'emmener, donc ils vont passer tous les deux par la ligne... Comme ils sont ensemble, ils sont obligés de passer clandestinement, donc ils vont franchir la ligne de démarcation dans le Jura et descendre jusqu'au sud, qui est pour elle, c'est un rêve de midinette, c'est vivre le grand amour avec l'homme de sa vie, au soleil, au bord de la Méditerranée, éventuellement aller jusqu'à Alger, dont elle rêve, et elle va se retrouver embringuée dans cette histoire de fou, parce que la police et le contre-espionnage français, en fait, essayent d'éliminer tous ces agents allemands.
Ah oui, parce que en fait, il faut tenter le démêler du faux, le vrai du faux, comme la question Aline Bocquer est-elle Aline Bockert au final.
Voilà, la coïncidence, c'est que les noms se ressemblent énormément, peuvent se prononcer pareil, les prénoms sont les mêmes, et donc évidemment, j'essaye de garder le suspense parce qu'il y a toujours la possibilité que ce soit une seule et même femme, et donc à l'aide à la fois de documents d'archives qui vont concerner surtout la nazie. Et du récit que elle, donc mon héroïne Aline, aurait écrit pour essayer de se disculper à la fin de la guerre. Donc elle va raconter en fait toute son histoire d'amour et tout ce qu'elle va vivre justement avec ce jeune type dont elle est amoureuse.
Alors Romain Slocombe, vous adorez écrire. Vous avez près de 30 romans à votre actif. Elle vient d'où toute cette inspiration?
Alors au départ, ça venait du Japon parce que c'est un pays que je connais très bien, je parle la langue, j'étais 19 fois, et au début on me demandait d'écrire des polars qui se passent au Japon avec des yakuza, et petit à petit ces romans ont commencé à parler aussi du Japon, de l'époque de la guerre, des bombardements de Tokyo et tout ça, et comme j'ai toujours eu un peu la fibre historienne, mon grand-père était historien, j'ai eu envie de parler de l'époque dont mes parents me parlaient quand moi j'étais enfant, c'est-à-dire la période de l'occupation. Et d'essayer aussi de trouver ce que de démêler un peu le vrai du faux aussi, de derrière la légende de la résistance et de la collaboration, ce côté noir et blanc un petit peu simpliste, d'essayer de voir ce qu'était vraiment la vie des Français sous l'occupation, quels étaient les faits divers sous l'occupation. Et mon personnage principal, l'inspecteur Sadorski, est un flic pas du tout héros résistant, au contraire, c'est un flic pétainiste, un type assez antipathique, mais il est le véhicule idéal pour plonger le lecteur dans cette période de l'occupation.
Alors on va souligner également aux auditeurs de Grand Sud FM que vous serez à l'espace Rencontre cet après-midi. Ce sera de 16h15 à 17h pour nous parler de la thématique retour dans les années sombres de l'occupation.
Tout à fait.
Bien, merci en tout cas à Romain Slocombe d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM. On peut vous retrouver sur le stand numéro 14 de Cultura, où vous pouvez notamment dédicacer de nombreux bouquins, comme j'ai pu le voir tout à l'heure.
Voilà, il y a toute la série Sadorski qui en plus est en poche maintenant.
Voilà, Jean-Michel, c'est terminé pour ce matin sur les ondes de Grand Sud FM. On va se retrouver cet après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h en direct pour bien faire le tour d'horizon d'autres auteurs sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Donc restez branchés. Vous pouvez également retrouver les photos des différents auteurs de ce salon du livre du Grand Narbonne. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Grand Sud FM. Et pour terminer, bien, on va vous parler également du jeu de piste qui se déroule actuellement. Et c'est Marine qui va en parler.
Et oui, en fait, dépêchez-vous parce que venez sur le salon du livre du Grand Narbonne puisque vous avez jusqu'à 16h pour remplir votre bulletin de participation. Ça marche avec les commerçants du comité En Ville, de l'association En Ville. Il y a 33 vitrines et en fait, il y a des livres, des auteurs qui sont sur ce salon, qui sont cachés dans les vitrines. Vous les retrouvez, vous mettez le nom de la boutique, le titre du livre, le nom de l'auteur et vous le déposez avant 16h dans l'urne à l'office de tourisme Côte du Midi. Et puis l'annonce des gagnants et des prix se fera demain dimanche à 11h au cœur des Halles de Narbonne. Voilà Benjamin, bon salon à tous et à tout à l'heure, on se retrouve cet après-midi.
Bon appétit à vous toutes et à vous tous et à tout à l'heure Jean-Michel.
Merci beaucoup Benjamin, merci à Marilyn, merci aussi à Thomas. On sera au rendez-vous du Salon du Livre à partir de 15h tout à l'heure, dans moins de 3 minutes midi, les infos. Et en attendant, on écoute le dernier titre de Joanda, ça s'appelle Milan. Et moi je vous retrouve à 14h, salut.